Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30.
Et nous sommes avec vous, évidemment, ce samedi. Bonjour tout le monde, salut Pierre.
Salut ma Lolo.
Ça va?
Bah ouais, je te vois partout. J'ai eu ma télé, je vois Laurence, elle est sur toutes les chaînes.
Le matin sur M6.
L'autre jour, je vais dans ma salle de bain, oh bon, il y a Laurence, tiens, ça doit être normal.
Je ne me souviens pas avoir été dans ta salle de bain.
Je vois la cuisine, j'ouvre le frigo, putain, Laurence Perrault. Qu'est-ce qui se passe, normal.
Oui, puis ce soir, vous me retrouvez aux côtés de Baffi, aux côtés de Cyril Hanouna, aux côtés des frères Bogdanov. On va apprendre plein de choses sur l'univers, l'hydrogène. Tiens, c'est marrant parce qu'ils parlent beaucoup de l'hydrogène, nous aussi.
Je préfère ton visage.
T'es gentil, moi aussi. Et puis, tous mes copains et copines de la grande Darka, Tiffany Bonvoisin,
Divine
Rhetoric, Clara Morgan, Magloire.
Clara Morgan aussi.
J'en ai parlé, et l'humoriste Az. Tu dis quoi? Qui ça?
Clara Morgan aussi.
Bon, allez, promis, je lui fais faire un bisou pour toi, je te l'envoie par SMS.
Ah, mais je veux un vrai bisou, moi. On peut pas aller bisou par téléphone.
Et ça sera donc ce soir à partir de 19h15. Et puis, bah, lui, il est bien vivant, c'est aussi mon pote, c'est aussi mon copain. C'est notre ami Gaspard. Salut mon Gas.
Bonjour Laurent, bonjour
c'est
à tous.
Notre copain, c'est ouais, notre ami.
Bah oui, c'est notre petit garçon qu'on a connu. Il était haut comme ça, il était tout petit. Puis maintenant, il grandit.
Tu sais qu'on fête.
La Saint-Gaspard.
Non, on est le 25 là, janvier, en fait. Les 5 ans.
Ouais. Ah bah,
ouais. On avait commencé exactement le 30 janvier, donc on n'est pas loin, quoi.
Oui, bon.
Les 5 ans, ça roule sur Sud Radio.
Bah, samedi prochain, hein. Ouais. Ce sera le 31.
Mine de rien.
Samedi prochain, on sera le premier chouchou.
Pardon, le premier.
Donc
oui.
En fait, voilà,
oui, donc,
on est à cheval. Voilà, bon,
allez, eh, ça fait 5 ans qu'on est là, mais
dit,
ça se voit, on a du mal. Hein.
Ceci dit, tu as raison, ce qu'on fait samedi prochain, c'est qu'on emmène quand même de quoi fêter les 5 ans.
Ça fait quoi?
Avec modération, mais un petit bouchon de champagne.
Non, on va ramener une bonne bouteille d'eau.
Voilà, c'est
avec
ça.
Avec un café.
Oui, un café. Bon, alors, au programme de notre rendez-vous, on va parler de l'année charnière. L'année charnière pour l'électrique et quid du diesel. Est-ce que c'est une bonne solution aussi? On en parlera avec notre invité expert, monsieur Fabrice Godefroy.
Non, mais tu as vu, Laurence, ce qui est tombé avant-hier soir, une sortie médiatique de Rachida Dati, candidate à la ville de Paris. Alors, moi, quand on m'a appelé, je me suis dit, non, c'est Anne Hidalgo, ils se sont trompés. Eh ben non, c'est bien Rachida Dati du groupe Les Républicains qui dit « Si je suis élu, je vais faire encore mieux qu'Anne Hidalgo. Moi, j'interdis le diesel tout de suite, ouais. Immédiatement !» C'est-à-dire qu'elle veut interdire 70% du parc automobile de rouler du jour au lendemain.
Au 1er avril. Alors, et ouais. Ça ne sera pas un poisson, là.
Mais je me dis que si elle veut se saborder la campagne comme ça, si elle n'a pas envie d'être candidate, il fallait le dire. Mais là, elle a réussi la prouesse technique quand même en une sortie médiatique, avant même que la campagne ait commencé, bah déjà de perdre l'élection. Je trouve ça très fort.
Et le sujet que l'on vous proposera avec notre invité,
tranquille, Anne Hidalgo,
la voiture électrique, est-ce l'année de vérité 2020 ou le diesel peut être la surprise de cette année 2020? On en parlera avec notre invité, vous êtes les bienvenus, vous nous dites ce que vous en pensez au 0826 300 300. Nous parlerons également de cette possibilité d'avoir des motorisations à carburant moins cher avec entre autres Flexfuel, Borel. Possibilités différentes.
En fait, l'éthanol, c'est de la betterave, vous pouvez le mettre dans votre voiture. Et puis un nouvel acteur arrive sur ce marché, il s'agit de Borel, donc ça fait une marque de plus à être homologuée. Et tant mieux, ça permet d'avoir une offre de véhicules flex fuel qui est extrêmement large, et on aura nos invités qui viendront vous expliquer comment gagner 500 euros par an.
Voilà, ça c'est important de le préciser. Et puis nous parlerons également d'une étude, voilà, qui a été faite sur les Français, entre autres, hein, sur la façon dont on vit nos voitures. On va en parler en détail avec une très très belle étude. Ce sera aux alentours de midi moins le quart. Mais tout de suite, eh bien, on fait un tour sur l'actualité, et ça c'est avec Gaspard.
Vous le savez, depuis un an et le début du mouvement des Gilets jaunes, les radars automatiques ont connu de fortes dégradations, mais depuis quelques semaines, le gouvernement a mis du sien et a ouvert la banque pour les réparations. 82% d'entre eux seraient fonctionnels et prêts à flasher. Et les réparations ne sont pas finies. L'État se fixe en effet habituellement un objectif de 93% des radars opérationnels sur le territoire. Un objectif qui devrait être atteint en fin d'année. Des réparations qui ont un coût, 36 millions d'euros au total, qui comprend la remise en état et le remplacement des vieux radars par des radars tourelles. Nouveau joujou de l'État qui a qui ont commencé à se déployer partout en France. 380 ont été installés en 2019. Pierre, le gouvernement veut en déployer 800 supplémentaires cette année. 2020, retour de la répression ?
Bah non, c'est pas ça, c'est qu'il manque du pognon dans les caisses. Hein. On va appeler un chat un chat. L'État avait budgété plus d'un milliard d'euros de rentabilité des radars. Les radars ont été dégradés, il manquait 250 millions. Bon, bah on va les compenser. Le problème, c'est qu'ils ont toujours rien compris. Alors je rappelle quand même que la France est le pays européen le plus répressif sur les petits excès de vitesse, que ça fait de nous le pays européen qui a la plus grosse rentabilité du système radar et qu'on est le 15e pays européen de la sécurité routière. Moi, je dis...
Si les pouvoirs publics offrent au département la possibilité de revenir aux 90 km/h, le gouvernement a fait passer au préfet une circulaire les incitant à ne pas le faire, composée de 10 pages et envoyée au préfet en ce début de semaine, qualifiée de guide conçu pour empêcher les élus de revenir sur les 80 km/h. Alors comment, vous allez me dire? Tout simplement en mettant des conditions strictes pour repasser aux 90 km/h. C'est simple, ne sont concernées que les portions de plus de 10 km dotées de séparation physique, d'alerte sonore sur le côté et bien sûr sans tourne à gauche, de croisement ou arrêt pour transport en commun. Il est également demandé d'imposer sur les portions concernées par le retour à 90 des bandes blanches afin d'y interdire les dépassements, raison pour laquelle de nombreux départements voulant rétablir le 90 km/h baissent les bras. À ce jour, seule la Haute-Marne et la Seine-et-Marne ont officialisé leur intention de rétablir les 90 km/h sur une partie de leur réseau, tandis que la Côte d'Or se dit prête à passer à la seconde malgré les difficultés qui se présentent. Pierre, pas si facile que ça de repasser aux 90.
Sauf qu'on va décrypter. La semaine dernière, on était dans l'émission, on avait Vincent Descoeur, député du Cantal, qui a fait une sortie terrible. Il a annoncé que le Cantal allait repasser l'intégralité des routes du département à 90 km/h, ou 70, hein, comme sous la précédente réglementation. La difficulté pour la sécurité routière, c'est quoi? C'est que si ces départements qui ont décidé de lancer le bras de fer avec le gouvernement vont au bout, à la fin, il va y avoir des résultats de sécurité routière dans les départements à 80 et des résultats de sécurité routière dans les départements qui sont repassés à 90. Si on s'aperçoit que c'est la même chose, c'est la fin de la mesure. C'est l'échec de la propagande gouvernementale d'Édouard Philippe depuis maintenant 2 ans. Donc l'État tente un baroud d'honneur pour empêcher les départements de passer à 90. C'est peine perdue. Parce que la Charente, la Côte d'Or, l'Aube, la Seine-et-Marne, la Haute-Marne, l'Hérault et donc le Cantal, eux, ça y est, ils y sont. Et j'oublie l'Essonne. Donc déjà, voilà une dizaine de départements qui repassent à 90 et la Sarthe. Et je pourrais continuer comme ça, j'en connais toute une flopée. J'attends juste un département, la Seine-Maritime. Quand ils vont se positionner, ça serait très drôle que le département d'Édouard Philippe décide de repasser à 90.
La mobilisation contre la réforme des retraites a été suivie à la SNCF et la RATP, perturbant, comme vous le savez, fortement le trafic des trains et métros tout au long du mois de décembre. Ces perturbations ont poussé les Français à modifier leurs déplacements. Les plus courageux et sportifs ont découvert les vertus de la marche à pied, du vélo, voire même de la trottinette. Les autres, les plus connectés, sont allés chercher des solutions alternatives sur leur smartphone avec les VTC ou le covoiturage. Les chiffres publiés par BlaBlaCar, spécialiste du secteur, en témoignent. Le numéro 1 du covoiturage indique que 6 millions de personnes ont voyagé avec ces différents services depuis début décembre. L'entreprise a enregistré une très forte envolée des inscriptions pour son service BlaBlaLine, du covoiturage spécial domicile-travail, où le conducteur donne un trajet avec des points d'arrêt façon ligne de bus. Mais ce que l'on retient des chiffres communiqués par l'entreprise, c'est le fait que cette longue période de grève a changé les habitudes des Français, selon BlaBlaCar toujours. Les différents services Blabla sont encore très utilisés ces derniers jours, alors que la circulation des trains et des métros est quasiment revenue à la normale. Le week-end dernier, il y a eu une hausse de 35% des covoiturages longue distance par rapport à la même période l'an dernier. Le nombre de trajets sur Blabla Lines a été multiplié par 10 lundi dernier. La grève a donc été un énorme coup de pub et 2 coups de pouce pour les services alternatifs.
Alors donc juste pour qu'il y ait un Blabla Lines, un Blabla Car ou un Blabla ce que tu veux, on est bien d'accord qu'il faut une voiture au bout d'un moment.
Ah oui, exactement.
Donc en fait, on est en train de m'expliquer que par les temps de grève, s'il n'y avait pas eu de voiture, Paris et la région parisienne ne vivaient pas. C'est marrant parce qu'il y a 6 mois, on nous expliquait qu'il fallait lâcher la voiture. Donc c'est très drôle. C'est très rigolo parce que maintenant, le gouvernement, si on n'avait pas eu les voitures, messieurs Philippe, Macron, Enco, s'il n'y avait pas eu les voitures, la France aurait été bloquée et paralysée économiquement. Donc merci à tous ceux qui continuent à avoir une voiture, c'est-à-dire 40 millions de Français, c'est-à-dire tout le monde quasiment, toutes les familles qui possèdent une voiture. Et merci d'être fidèles à Sud Radio et à Ça Roule.
Ça Roule qui effectivement fête, je vous rappelle, les 5 ans, donc on est ravis d'être avec vous. Merci beaucoup mon gars. Dans quelques instants, juste après cette première pause, nous recevrons notre invité, Fabrice Godefroy, et qui est entre autres expert mobilité pour le CNPA et qui vient avec cette question qu'il nous pose, à savoir, est-ce que 2020 est l'année de vérité du véhicule électrique? Quid du diesel? Et il signe une interview exceptionnelle qui va paraître la semaine prochaine, ce sera donc en février, dans le journal auto.com. Sur cette particularité sur l'électrique. Est-ce que 2020 c'est l'année de vérité du véhicule électrique? On vous pose la question aussi à vous, 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous rejoindre.
Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Alors comme ça, Laurence Perrault, vous allez être sage tout le week-end.
Ouais, oui, un petit peu, parce que d'abord ce soir, vous me retrouvez sur C8 dans la Grande Darka, mais après, ça se termine vers 9h30, je pense que je vais aller fêter un anniversaire. Oui, je pense quand même. Et vous faites quoi ce week-end?
Moi, je suis tranquille.
Moi, vous avez bébé, tout ça, avec la petite famille.
Je suis avec les loulous, on est bien, on va faire des parties de jeu, et puis on va prendre la voiture pour aller se promener.
Voilà. Bon, c'est très très bien. Quelle voiture allez-vous prendre, mon Pierre? Est-ce que vous êtes passé à la
voiture
électrique?
C'est parce que moi, mon problème, c'est la rallonge. C'est bête comme chou. C'est juste que devant ma maison, je vois pas comment je peux avoir une voiture électrique. Parce que la place est pas toujours libre. Donc, j'habite un petit village. Donc, s'il faut que tout le monde dans le village lance la rallonge pour recharger la voiture électrique, il va y avoir des nœuds au milieu du carrefour.
Et encore, vous avez une maison. Imaginez celui qui habite au 8e étage d'un appartement en plein milieu d'une zone où il y a que des immeubles.
2,50 m de plafond, 3 m par 8 étages, 3 x 8. Moi, je pense qu'avec un rouleau de 50 mètres, c'est bon.
Allez, le sujet que l'on vous propose, et je vous propose bien sûr de réagir au 0826 300 300 si vous voulez nous rejoindre.
J'imagine.
2020.
Non, mais j'imagine juste un immeuble, tu sais, les immeubles de banlieue, un petit peu. Même avec tout le monde qui lance sa rallonge par la fenêtre comme ça. À l'époque, c'était les paraboles. Mais bientôt, ça va être les fils des rallonges pour recharger les bagnoles.
Allez, le sujet, mon Pierre. 2020, est-ce l'année de vérité du véhicule électrique? Et est-ce que le diesel peut être la bonne surprise de l'année? On va savoir pourquoi. Enfin, la surprise, bonne ou mauvaise, on verra. On en parle avec notre ami que l'on connaît bien, Fabrice Godefroy, qui signe entre autres pour l'Auto-Journal, le journal de l'auto, qui va sortir en février un très très bel article 2020, année de vérité du véhicule électrique.
Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Alors, vous avez bien la forme?
Toujours. Alors moi j'ai envie de dire le véhicule électrique,
on a un peu de jus, là,
bonne ou mauvaise année, on va avoir le mondial de l'auto cette année, Pardon, ça s'appelle le Paris Motion Festival maintenant, et le mot automobile a disparu, on sait pas trop pourquoi. Mais en revanche, on va encore nous faire le coup du « c'est la grande année du véhicule électrique ». Moi, ça fait depuis 2012 que j'entends ça, « c'est la grande année du véhicule électrique ». On en est où?
Justement, la différence de d'habitude, c'est que là, il y a une obligation. Il y a une obligation de développer ce véhicule électrique.
Voilà, et c'est là où c'est bizarre.
C'est qu'en fait, vous savez que la Commission européenne fixe aux constructeurs des objectifs de descente des CO2, du taux de CO2, alors qu'on avait une baisse du CO2 pendant 20 ans du parc roulant, qui est en train de remonter depuis 3 ans. On est à 112 grammes de CO2 en moyenne actuellement, dans la moyenne en fait, des constructeurs dans leur vente de véhicules. Et la solution, effectivement, pour arriver à cet objectif des 95 grammes en moyenne, les constructeurs doivent vendre dans l'entièreté en fait de leur gamme pour 95 grammes de CO2. Et donc, une des possibilités d'arriver à baisser ce taux de CO2, c'est évidemment
de vendre,
un maximum de véhicules électriques.
Mais ça va loin.
C'est sur le nombre de véhicules vendus.
C'est le nombre de véhicules par rapport au catalogue et le nombre de véhicules vendus.
D'accord. Et nous, on a fait quelque chose avec Fabrice. On a beaucoup parlé avec les concessionnaires et les marques. On est quand même hallucinés. C'est-à-dire qu'ils ont des obligations. Expliquez, Fabrice, parce qu'ils sont un peu pris en otage.
Sans citer de nom de constructeurs. Donc la pression est mise par la Commission européenne pour les constructeurs, mais les constructeurs, eux, vont mettre forcément des objectifs extrêmement drastiques aux concessionnaires. Et moi, je sais très bien qu'il y a certaines marques qui ont des obligations, accrochez-vous bien, Pierre, entre 10 à 15% de ventes de véhicules électriques dans leur gamme. Mmh. 10 à 15% quand on sait c'est que l'année dernière, c'était 1,9% des ventes. Ce qui veut dire que cette année, il ne faut pas que ça redémarre, le véhicule électrique. Il faut que ça explose. Ben c'est une obligation. Mais il faut 10 à 15% de véhicules électriques vendus l'année prochaine.
Si jamais ils ne font pas ça, et ça c'est important, ils ont des pénalités, les concessionnaires.
Parce que le problème, c'est que le concessionnaire, on a l'impression que parce que la vente d'une voiture électrique,
d'une voiture
de façon classique,
Fabrice, excuse-moi, mais comment tu peux vendre 15% de véhicules électriques?
C'est pas ça. Est-ce que l'hybride, ça rentre dedans ou pas?
Ça fera partie de la réduction. Ouais. Mais le problème, c'est que dans le 100% électrique, ils ont des objectifs de 10 à 15%. Sauf que un des objectifs, pour pouvoir avoir leur remise arrière avec lesquelles ils vivent, il faut qu'ils arrivent à obtenir cet objectif. S'ils n'arrivent pas à obtenir cet objectif, ils risquent de ne pas avoir leur remise arrière. Alors, vous donc savez forcément, pas... ça va poser un problème. Donc c'est une obligation.
On va revenir là-dessus, mais vous ne savez pas que notre ami Sébastien, qui est arrivé pour le sujet de midi, est déjà avec nous, Sébastien Poles de chez FlexFuel. Non, mais ça, c'est important. C'est parce qu'en fait, il y a une telle pression qui est mise auprès des concessionnaires qu'ils vont perdre de l'argent s'ils n'atteignent pas les objectifs que les marques leur imposent. Et c'est l'Europe qui impose ces objectifs. Voilà.
J'entendais, j'en discutais avec un ami, avec Steve Salem de chez Honda, qui me disait l'année prochaine, on électrifie toute notre gamme. Donc voilà la clé.
Alors ça, oui, effectivement, c'est un objectif et c'est effectivement une
mais comment on fait pour en vendre 10 à 15% Fabrice, aujourd'hui, le marché, c'est quoi? C'est 1,5%,
1,9% sur les véhicules 100% électrique, on doit passer minimum à 10% l'année prochaine.
Mais
c'est une
pas.
Obligation. Eh ben, on verra. Non, on verra. C'est l'objectif. Et s'ils n'y arrivent pas, ils risquent d'avoir des problèmes.
Sauf que pendant ce temps-là, on a une réaugmentation depuis l'année dernière du nombre d'immatriculations de véhicules diesel.
Alors c'est le deuxième sujet de l'article qui est très intéressant.
Toujours
c'est la surprise de cette année. Donc pour moi, effectivement, c'est l'année de vérité du véhicule électrique. Pour finir vite sur le véhicule électrique, on a encore sur le véhicule électrique, même s'il commence à être
raboté. Mais ils vont disparaître.
Cette année, justement, toutes les planètes sont encore alignées. C'est-à-dire qu'on a droit aux 6 000 euros pour le véhicule électrique jusqu'à 45 000 euros. Et au-dessus de 45 000 à 60 000 euros, ça sera divisé par deux, donc 3 000 euros. Et malheureusement, les entreprises, c'est baissé de 6 000 à 3 000 euros. Donc, effectivement, ça baisse un peu, mais ça va. Alors qu'on sait que les prochaines années, le bonus va être raboté. Donc, en plus, c'est vraiment l'année où il y a une possibilité de vendre du véhicule truc encore avec ce bonus qui va être au fur et à mesure malheureusement moins intéressant. Et effectivement, derrière, et ça peut être la surprise, et c'est la deuxième partie de l'article, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un rebond du véhicule diesel. Pourquoi? Parce que le véhicule diesel consomme moins, 20 à 25% de moins qu'à naissance,
donc
moins de CO2.
Voilà, moins de CO2, effectivement.
Donc certains constructeurs, je sais qu'on leur a demandé effectivement de vendre un maximum d'hybrides, et ça c'est très bien parce que c'est une des meilleures solutions, sauf que c'est quand même cher un véhicule hybride, du 100% électrique, mais malheureusement c'est pas forcément adapté, mais il va falloir qu'ils en vendent, mais par contre aussi de remettre un peu de diesel dans leur vente pour justement essayer d'obtenir, en tout cas dans une période actuellement, pour pouvoir baisser ces taux de CO2.
Dont une marque française, voilà.
Je ne citerai pas de nom de constructeur.
Bon, en toute façon,
une marque française qui pousse ses concessions à revendre du diesel.
Par contre, excusez-moi de revenir là-dessus.
Mais faites.
Mais c'est
passionnant ce qui
se passe. Le véhicule électrique aujourd'hui, il se prend toujours le même mur de plein fouet. C'est-à-dire qu'on a un manque cruel d'autonomie, une tarification qui est beaucoup trop élevée par rapport à la qualité du véhicule et à sa concurrence, notamment que ce soit en essence ou en diesel. C'est imparable comme argument ce que je vous dis. C'est que si j'ai une enveloppe à 25 000 euros, en termes d'électrique, j'ai pas une voiture qui fera le café. Hein. Tandis que là, si j'arrive avec 25 000 euros pour m'acheter un véhicule thermique conventionnel, eh bien j'ai tout ce qu'il me faut. Donc comment voulez-vous faire monter les ventes à 15% ou 10% sur un type de véhicule qui est trop cher, qui est compliqué, qui est pas adapté à nos vies?
Et je vais vous citer dans votre article que j'ai en avant-première, parce qu'il va sortir dans le journal de l'auto à partir du mois de février. Le titre, je vous le rappelle, de cet article, c'est 2020, année de vérité du véhicule électrique. C'est que vous le dites vous-même, Fabrice Godefroy, le plan de déploiement des bornes de recharge, c'est catastrophique puisque les constructeurs poussent à la consommation. Enfin, l'Europe pousse les constructeurs à la consommation, qui pousse leurs vendeurs à en vendre de plus en plus, qui vont pousser les consommateurs que nous sommes à en acheter. Or,
Il faut les infrastructures. Parce qu'en plus de ça, il faut les infrastructures. Alors moi, je me rappelle de l'objectif qui a été fixé, c'est 100 000 bornes pour 2022. Je crois qu'on en est à 25 000. Donc, c'est vrai qu'effectivement...
Non, mais on compte sur les particuliers pour les mettre.
Oui,
on compte sur les restaurateurs.
Oui,
tout le monde compte sur les autres.
Là, il y a un paradoxe qui est quand même extraordinaire. On n'arrête pas de nous dire que c'est l'idéal d'avoir un véhicule électrique en centre-ville pour notamment une question de pollution, notamment à Paris. Sauf que c'est justement à Paris où ça devient difficile. C'est pas des maisons individuelles. Tout à l'heure, vous parliez de cordons qu'on va lancer tourner à travers la maison, mais dans un immeuble haussmannien, ça va être très compliqué. Donc, il nous faut des bornes extérieures, et les bornes extérieures, elles sont où dans les parkings? Et puis tout ça, ça a des répercussions
puis, Fabrice,
pour les stations-service.
On a un autre petit souci quand même. Je rappelle que la mairie de Paris, d'Anne Hidalgo, a divisé par deux le nombre de places de stationnement en extérieur pour les véhicules. Donc, quand bien même on voudrait équiper en bornes, il n'y a plus de place. Donc, on fait quoi?
Et vous avez complètement raison.
Et alors, vous parlez aussi de cette réalité dont on parle assez rarement en France, et pourtant, il faut quand même le soulever par rapport à la voiture électrique. On rappelle que dans Ça roule, c'est pas qu'on est contre la voiture électrique, c'est qu'on se dit qu'on n'a pas tous les moyens de le faire et que pour l'instant les infrastructures, et vous le dites, on est à 1,9% de vente de part de marché en France. La Chine est en train de connaître un fort ralentissement de ses ventes électriques. Le
ça
pays de
dire,
la voiture électrique, la Chine. Oui, alors, Kézako.
Parce que c'était un des pays effectivement qui poussait un maximum de véhicules électriques. Bon, ils se sont rendus compte en Chine.
Ils fabriquent des batteries. Hein.
Oui, mais il y a ça. Alors, non seulement effectivement, ils sont, leaders,
donc,
ils sont leaders sur effectivement la fabrication des batteries, donc ça les arrange bien de pousser ce marché-là. Ça, c'est une évidence. Mais en plus de ça, ils se sont rendus compte, par contre, l'énergie électrique, elle vient où en Chine? Ah mince, elle vient de nos centrales à charbon. Ah, donc, au niveau de la pollution, peut-être qu'on n'arrive pas à le réduire. Donc, je ne sais pas si c'est la cause, mais en tout cas, ça en fait partie. Et derrière, ils ont réduit les aides de l'État. Et en réduisant les aides de l'État, qui était en fait, le véhicule électrique était sous perfusion, en fait. Finalement, ça a freiné le marché. Donc en France, si on commence à nous dire qu'il nous faut absolument 10 à 15% de véhicules électriques, alors qu'on commence à nous dire qu'on va raboter les aides, attention.
Et Emmanuel Macron, qui nous propose, Laurence, de lancer une batterie électrique 100% franco-française, made in France, fabriquée en France, pour faire baisser les coûts de la batterie électrique.
C'est une bonne idée, ça.
Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise? Moi, je propose qu'on aille gratter un petit peu tout ça après.
Et qu'on en reparle plus tard.
Ouais, par exemple.
Allez.
Hein,
ouais, non, parce que sur le papier, c'est pas con.
Je sais pas pourquoi je le sens pas, moi.
À cause des...
J'ai l'impression qu'on n'a pas les moyens de faire ça. Je vois pas comment on peut concurrencer la Chine sur ce secteur. Mais bon.
Bon. On a toujours des idées en France.
Oui, mais le problème, c'est que personne ne nous les prend.
Et on ne veut plus notre pétrole.
Allez, dans quelques instants, on revient sur ce sujet important. Je vous rappelle l'article qui va paraître. Il est hyper passionnant, cet article. N'hésitez pas, à partir du mois de février, de vous offrir le journal de l'auto. C'est dans l'œil de Fabrice Godefroy.
La journaliste, c'est Alice Thuot. Et je tenais quand même à préciser.
Vous avez raison, jeune homme. Fabrice Godefroy, personnalité qualifiée mobilité et environnement auprès du CNPA. Voilà, 2020, année de vérité du véhicule électrique. Alors, on va revenir aussi sur le diesel, puisque est-ce que c'est la renaissance du diesel par rapport à ce qu'on appelle le grammage de, c'est ça, le grammage
CO2,
de CO2.
En tout cas, il n'est pas mort.
Non,
ça, c'est sûr.
Il n'est pas mort. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et on continue de parler avec beaucoup de bonheur d'être tous ensemble depuis 5 ans. Et oui, nous sommes sur la semaine entre aujourd'hui, samedi 25 janvier et samedi prochain, où on sera le 1er février, où on fête les 5 ans d'existence de Ça roule. Et merci à vous tous de nous suivre régulièrement sur Sud Radio, évidemment, mais aussi sur la page Facebook de Sud Radio et puis sur le site internet aussi de Sud Radio. Alors, 2020, année de vérité du véhicule électrique. On en parle avec l'auteur de cette interview qui va paraître dans le journal de l'auto au mois de février, donc la semaine prochaine. Et pendant la petite pause, là, on discutait tous ensemble parce qu'on sait bien que c'est pas si évident que ça d'avoir un véhicule électrique. Surtout, monsieur Pierre, quand on sait que le prix à la pompe la recharge va augmenter pour certains des diffuseurs.
On en parlait la semaine dernière. Si vous voulez, ça nécessite un investissement de développer des bornes pour des entreprises et de proposer des pleins, entre guillemets, de véhicules électriques pour recharger votre voiture. Donc, pour l'instant, ce qu'on a, c'est différentes annonces, notamment une boîte qui s'appelle Unity, je crois, de mémoire, et qui va augmenter son forfait de recharge. C'est-à-dire qu'on va payer au kilowattheure. Donc, on a fait une petite étude, un petit calcul mathématique, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça dépassait même le prix de revient au kilomètre pour un plein de diesel, par exemple.
D'essence,
oui. Alors, quand
plein électrique, au même prix qu'un plein d'essence.
Voilà. C'est à partir du 31 janvier 2020, donc c'est la semaine prochaine, que la facturation fera raison de 79 centimes d'euros le kilowattheure. Voilà. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Avant, c'était un tarif.
Pour les non-abonnés, faut quand même le préciser.
Oui, mais quand même.
Oui, tout à fait.
Si en plus il y a un principe d'abonnement et tout, alors ça devient n'importe quoi. Je crois que le véhicule électrique, pour qu'il s'impose, faut que ce soit simple. Et là, ça commence à être compliqué. Déjà, je suis perdu. Alors, faut être abonné à une boîte ou une autre. Ouais, moi, on me dit que ça va me coûter le même prix sur mon plein que le diesel ou l'essence. Parce que c'est bien beau de dire, si vous rechargez chez vous, tout va bien. Mais avec le petit compteur Linky qui va pouvoir différencier qu'à l'appareil, vous rechargez, on va savoir si c'est votre lampe de chevet que vous allumez votre ordinateur, votre télévision ou que vous rechargez votre voiture,
ça, c'est
vous
le
croyez
coup d'après,
quoi
ça. Ça, c'est le coup d'après. Ça.
Alors, moi je crois peut-être un peu au bisounours parce que j'ai envie, mais quand même, il ne faut pas me prendre que pour un idiot. J'ai bien compris qu'un jour, le gouvernement, quand il manquera 30 milliards d'euros de taxes dans les caisses, eh bien, ils vont taxer l'automobile par un autre moyen.
J'ai un vrai comparatif de prix, hein, et puis vous pouvez aller chercher toutes ces informations. Et là, moi, c'est tout simplement le magazine Que Choisir hein, qui donne ce comparatif, donc la source est exacte. Sur Sud Radio, écoutez bien, avec le fameux diffuseur, la Ionity, le coût pour faire 100 km avec une Renault Zoé, avec l'augmentation qui va passer le 31 janvier, là, de Ionity à la pompe recharge électrique, le coût pour faire 100 km d'une Renault Zoé sera de 18 euros. En comparaison avec une Clio Essence actuellement, dont le budget est moins de 12 euros pour effectuer la même distance. Quid ?
Donc voilà, donc ça fait partie. Moi, je vais vous dire franchement, le gouvernement a incité les Français à basculer de l'essence au diesel au début des années 80, au moment même où c'était sans doute, peut-être, je ne vais pas dire une hérésie, parce qu'on le fabriquait, mais en tout cas où ce n'était pas le plus à propos. Bref, on a augmenté de manière extrêmement forte notre consommation de véhicules diesel à ce moment-là, parce que l'État nous y a poussé. Aujourd'hui, les constructeurs ont mis des offres de véhicules diesel qui sont aussi propres ou aussi polluants que leurs concurrents en essence. C'est pas les mêmes polluants tout à fait, mais c'est kiff-kiff bourricot. Quoique, maintenant, ça devient les mêmes. Eh bien, au final, maintenant, on nous pousse vers un véhicule électrique qui, sur le marché de l'occasion, est une catastrophe. Parce que quand vous achetez un véhicule électrique d'occasion, alors un coup vous l'achetez sans la batterie, un coup vous l'achetez avec, on a l'impression d'acheter une voiture en titre. C'est comme si je vous disais, oh, je vous vends ma voiture diesel, mais je vous préviens, il n'y a pas de moteur, il manque de portière. C'est exactement la même chose. Ça viendrait à personne l'idée de l'acheter. Donc là, moi, je crois de moins en moins à ce modèle. Et quand j'entends Fabrice Godefroy qui nous décrypte hein, les attentes de la Commission européenne et donc du gouvernement de passer à 10% des ventes, eh bien, je me dis, on se met le doigt dans l'œil, c'est impossible.
Alors, vous êtes les bienvenus, vous aussi, hein, 0826 300 300. Guy, qui nous appelle des Yvelines en Île-de-France, est avec nous. Bonjour Guy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonne année, parce que je ne sais pas si on vous a eu depuis le début du...
Non, mais à vous tous.
On a encore un petit peu le temps. On vous écoute sur ce sujet électrique, l'année de vérité, diesel, le retour, vous en pensez quoi ?
Bah écoutez, moi je suis un peu partagé, c'est-à-dire que pour moi, ça va être une bonne année pour le diesel, parce que la volonté politique fait que... les gens vont être poussés à s'en séparer, donc je pense que les vendeurs vont proposer beaucoup d'offres diesel intéressantes. En somme, il faut acheter. Par contre, je suis quand même un peu inquiet, parce que justement cette volonté politique ne veut plus du diesel, et donc ils vont tout faire pour qu'il n'y en ait plus à la vente.
Et dites-vous, vous allez en acheter une voiture électrique qui correspond à vos besoins et vous fait rêver ?
Pas du tout, non. C'est déjà faire rêver, il faut des modèles qui fassent rêver, c'est pas le cas. Premièrement, et en plus,
je suis pas d'accord. Guy, j'ai vu une Ferrari, moi, qui est plutôt pas mal.
Non, mais même, moi, j'ai vu la Jaguar.
Non, mais Guy, il y met de la mauvaise volonté aussi. Il pourrait vendre sa Clio et acheter une Ferrari comme tout le monde, non ?
Ouais, c'est vrai que un Tesla modèle X à 140 000 euros.
Ouais, c'est ça. Ou la Jaguar E-Pace ou la e-tron de chez Audi. Pour revenir sur le diesel, ce que vous disiez, vous, Guy.
Écoutez, moi personnellement, je suis pas partant pour l'électrique, parce que dans mes usages ça correspond pas. J'ai essayé en plus il y a quelques années et franchement c'est pas faisable. Il y a trop de complications, et en plus avec ce qui arrive au niveau des tarifs, je pense que ce sera une arnaque clairement. Donc,
on va demander à Fabrice Godefroy, entre autres, président des Dieselistes de France. Ça vous parle de ce que dit Guy de...
Moi, je pense qu'il y a, il faut évidemment plusieurs carburants, plusieurs énergies, et tout dépend en fait de l'usage. C'est vraiment, en fait, quand vous arrivez dans une concession, le vendeur, il va avoir un rôle qui est extrêmement important. À une époque, on avait le choix entre essence, diesel. Là, le vendeur, il aura plusieurs propositions. Il y aura le bioéthanol, il y aura l'essence, le diesel, l'hybride, l'hydrogène et l'électrique. Donc il y a vraiment un devoir de conseil, et le vendeur, il va adresser en fait le bon véhicule et conseiller le bon véhicule par rapport à l'usage du client. Et donc là, c'est extrêmement important. Effectivement, l'électrique a certainement un rôle très intéressant pour quelqu'un qui fait de l'urbain, des petits déplacements, et je suis sûr qu'il y a des économies encore à faire. Et il faut en profiter, parce qu'effectivement, ça ne durera peut-être pas. Il y a un rapport parlementaire qui est quand même sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui expliquait que de la fin du moteur thermique qui a quand même fixé dans la loi pour 2040, il ne faut quand même pas l'oublier, et ça arrive même plutôt dans certains centres-villes, de passer du moteur thermique à passer au véhicule électrique, ça coûtera 500 milliards d'euros à la France. Donc il faut quand même juste le savoir. Ce rapport parlementaire, on peut le retrouver. Parce qu'effectivement, il y a toutes ces taxes qu'on va perdre sur le carburant, hein, plus de 60 à 65% de taxes qu'il y a sur les carburants. Il va bien falloir à un moment ou un autre les récupérer, on les récupérera sur le véhicule électrique. Il ne faut pas rêver. Et puis il y a toutes les infrastructures, on en a parlé, plus de 100 000 bornes qu'il va falloir installer. Donc voilà, il y a un besoin. Après, effectivement, le diesel, alors toute la journée, on a des rapports à charge hein, qui sortent. Mmh. On en a eu toute la semaine, encore trois rapports à charge qui sortent à la semaine. Mais les résultats des courses, quand même, c'est que le diesel mort, l'année dernière, c'était quand même 34% des ventes. Ça pourrait rebondir pour l'histoire des 95 grammes pour l'année prochaine. Mmh. Et en véhicule d'occasion, ça, c'est le plus frappant. Plus de 60% de véhicules d'occasion ont été achetés en diesel. Et quand on sait que les véhicules d'occasion, c'est 2,5 fois plus de véhicules neufs vendus, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un besoin. Et en plus, pourquoi de l'occasion ? Parce que eh ben, les gens, pas forcément le moyen de s'acheter des Ferrari ou même des voitures neuves, c'est même si on y va un peu plus basiquement. Mais derrière, eh ben, évidemment, c'est un besoin et le diesel s'adresse quand même à des gens effectivement qui ont besoin d'aller travailler avec, qui roulent beaucoup, et il y a encore un besoin à ce niveau-là.
Fabrice, moi j'ai une question, elle est très simple et très basique. Admettons, le gouvernement se plante. Et puis, dans 4-5 ans, on a déjà vu des énergies comme ça qui se plantent. Regardez le GPL, c'était pas spécialement une mauvaise idée. Et puis, il y a eu un bug une fois, et pan, hop, le marché était mort. Imaginons, le gouvernement se plante. Demain, l'électrique, ça prend pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait avec nos prises, nos bornes et nos câbles ?
Il suffit de regarder pour le diesel. Et puis... c'est ça, moi, c'est ça qui me rend fou. Ouais, alors là, vous allez me chauffer un peu, mais c'est ça qui me rend fou. L'État a tout fait pour vendre des véhicules diesel aux Français. Tout fait. On était monté jusqu'à 75% des ventes. Tout était fait. Et encore maintenant, hein, parce que le malus actuel favorise le diesel au niveau des ventes, parce que moins de CO2 sur un diesel, donc on le favorise. Tout est fait. On a même eu le droit à une prime à la reconversion actuellement en achetant un diesel neuf. Et derrière, on vous explique que vous ne pourrez plus rouler avec votre véhicule diesel, et notamment en 2024 à Paris. Avec Rachida Tati, ça risque d'aller un peu plus vite. Ça sera au 1er avril. Donc ça ne sera pas un poisson d'avril. Elle l'a annoncé sur une autre radio il n'y a pas longtemps. Et puis après, il ne faut pas se tromper, parce que la suite de la phrase, c'est « et les moteurs thermiques en 2030 ». Les moteurs thermiques, c'est essence, diesel, hybride, éthanol, ça reste un moteur thermique. Donc, il faut bien faire attention à ça. Donc, vous voyez bien qu'on a poussé un carburant pendant des années et des années, et parce que les Français ont suivi les pouvoirs publics sur le sujet, on va les pénaliser parce qu'ils ont suivi les pouvoirs publics. Donc, ça qui est quand même extraordinaire.
Tu sais, Fabrice, moi, je veux dire un truc, là, je vais laisser parler le cœur. Hein. Moi, je pense à tous ceux qui nous écoutent, qui sont en France, dans des villes, dans des petites zones rurales, qui ont besoin de leur voiture, qui n'ont pas les moyens de la vendre, qui n'ont pas les moyens d'en racheter une, qui entendent des discours de Parisiens et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ces énergumènes ? Ils sont cinq dans un ministère là-haut et ils viennent nous donner des leçons sur ce qu'on fait, nous. Alors, ils viennent nous dire que c'est pollué à Paris là-haut, mais nous, on est bien, on est tranquille dans nos campagnes, on n'a pas de problème de pollution. Qu'est-ce que vous venez nous embêter avec ça ?
Il y a aussi une pression de l'Europe, hein, c'est pas que...
C'est la Commission européenne qui fait la
pression. Alors, eux, ils sont encore plus déconnectés que le reste.
Il ne faut pas croire que c'est un problème parisien. Tout le monde va être concerné. Ouais. Il y a 16 villes qui vont être mises en place au niveau des zones de faible émission. Donc, le laboratoire des mauvaises idées, effectivement, se trouve souvent à Paris, et vous avez totalement raison là-dessus, mais après, c'est en train de contaminer les autres villes. Mm-hmm. Donc, attention, ça va concerner beaucoup de monde, ça.
Juste avant de vous poser la question économique de la chose, je voudrais revenir sur votre article qui va paraître donc à partir du mois de février dans le journal de l'Auto, avec... Dans l'œil 2, c'est le nom de la rubrique, 2020 année vérité du véhicule électrique. Vous, pour conclure, vous y croyez pour le véhicule électrique ? Est-ce que c'est vraiment l'année charnière ? C'est-à-dire que tout risque, ou ça passe ou ça casse.
Alors moi déjà, je suis persuadé, vous allez voir, on en reparlera.
On va se prendre un coup de jus.
On en reparlera dans très peu de temps. Je pense que le mois de janvier, on va avoir une poussée du véhicule électrique qui va monter très rapidement là. Et tout le monde va dire, ça y est, c'est parti le véhicule électrique. Pourquoi ? Parce qu'au mois de novembre et mois de décembre, les constructeurs ont fait du frigo, c'est-à-dire qu'ils ont repris un peu les ventes pour que ça rentre dans la vente au mois de janvier, pour que ça rentre dans l'histoire des objectifs de 95 grammes. Donc au mois de janvier, vous allez voir, on va avoir une poussée très forte du véhicule électrique, ça j'en suis persuadé. Après, tout au long de l'année, on verra si on arrive à 10%. Peut-être. Il faudrait que ça soit le cas pour certains concessionnaires avec, par rapport aux objectifs. Le diesel, il va peut-être y avoir un rebond. Moi, je pense que cette année, c'est le rebond du diesel. Mais par contre, vous inquiétez pas, il y a certaines ONG qui vont faire tout pour que ça n'arrive pas. Et comme par hasard, je vous l'annonce, hein, tous les mois. En fait, j'ai compris un truc, c'est que le Dieselgate, c'est un peu la série à la mode pour les ONG. Ça pourrait être sur une plateforme de téléchargement, je ne vais pas citer la marque, vous savez, pour regarder les séries.
Ça commence par net, ça se termine par X.
Voilà, et on aime bien saison 1, saison 2, saison 3, épisode 15, épisode 10, épisode 15, et ça, ça plaît aux ONG. Et le Dieselgate, c'est une super série, c'est le best-seller des séries des ONG.
Je vous ai vu, parce que notre invité pour le rendez-vous de midi est arrivé déjà, Sébastien Le Polès de chez Flexfuel. Je vous ai vu opiner de la tête quand vous y croyez pas.
J'y crois pas, non. Quand on voit que déjà l'hiver, quand on se chauffe, on achète de l'électricité en Allemagne qui est fabriquée par le charbon, comment vous voulez rajouter un parc 10%, si vous multipliez par 10, l'Europe oblige de multiplier par 10 le nombre de véhicules électriques. Mais c'est juste impossible.
En fait, il faudrait développer au maximum les motorisations hybrides rechargeables.
Hybrides rechargeables diesel, hybrides rechargeables
thermiques. Et puis là, je vais prêcher pour votre paroisse.
Puis après, on va devoir y aller.
Les biocarburants, c'est une solution. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le biodiesel, il y a le bioéthanol. Ce sont des solutions bien plus écologiques. Le problème, c'est que quand on dit dans une même phrase, ça sera la fin du moteur thermique, ça veut dire que ça sera la fin aussi des biocarburants. Donc c'est une erreur parce qu'on ne pourra pas faire rouler des biocarburants avec des véhicules électriques.
Mais ça prouve bien que certains de nos politiques ou devenant politiques ou devenir politiques ne connaissent pas les sujets dont ils traitent, juste popularement pour faire voter pour eux et
ils n'ont sans doute pas de voiture.
Oui, et puis bon.
Non, mais ils font du covoiturage avec leur chauffeur, par contre.
Merci beaucoup, Fabrice Godefroy, qui était notre invité. Je rappelle également votre article qui va paraître. Non, elle me fait beaucoup rire, celle-là. Dans le journal de l'auto au mois de février, dont c'est dans le regard de Fabrice Godefroy, 2020, année de vérité du véhicule électrique. Merci à Guy de nous avoir appelé aussi de l'Ille-et-Vilaine. Et dans quelques instants, on va parler d'une étude.
Des Yvelines.
Des Yvelines.
Bon, ça se touche si on plie la carte. C'est bon.
C'est ça, si on plie la carte.
Tout ça, c'est la France.
Et dans quelques instants, on va parler d'une très très belle étude faite par Identicar sur les Français et la voiture. Restez avec nous. Merci beaucoup et prochain rendez-vous de l'info, il sera 13h.
Sud Radio, ça roule, Laurent Spiro, Pierre Chasseret, 11h30.
Et jusqu'à 12h30, nous allons parler de la possibilité d'avoir cette mobilité, une voiture avec 3 possibilités de carburant pour rouler moins cher et plus propre. Oui, est-ce que ça peut exister? Eh bien, on en parle, mon Pierre, avec nos invités.
Oui, parce qu'en fait, pour vous faire simple, on a lancé une opération à 40 millions d'automobilistes, ça s'appelle j'aibesoindemavoiture.com, vous pouvez tous témoigner. Et dessus, le nombre de témoignages que je reçois de partout en France qui me disent « Mais le coût de l'automobile, les carburants, c'est beaucoup trop cher, on s'en sort plus, on retourne à 1,50€ de moyenne sur la France sur le diesel, on ne peut plus rouler. » Il faut trouver des solutions. Alors, faut pas le dire trop fort non plus. Tant mieux pour vous si vous écoutez Sud Radio, gardez bien l'info pour vous. On va vous donner toutes les clés pour acheter moins cher votre carburant et surtout rouler plus loin et à moindre coût.
Nos invités, nous avons avec nous en studio sur Sud Radio Sébastien Le Polès de chez Flexfuel. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et nous sommes aussi avec vous Monsieur Borel, Hervé Borel, bonjour.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui.
Vous êtes le fondateur du groupe Borel, un petit mot sur ce groupe Borel qui existe depuis plus de 40 ans.
Oui, donc j'ai mis une quarantaine d'années là pour proposer des solutions alternatives à la fois économiques et écologiques.
Et c'est une bonne nouvelle, tant mieux, faut le dire avec le sourire, ça, Monsieur Borel, surtout que vous arrivez sur un créneau où dans lequel vous offrez la possibilité aux gens de pouvoir rouler moins cher. On est aussi avec un de vos confrères et amis, on est avec Sébastien Le Polès. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pierre, bonjour Laurence.
Salut Seb.
Alors, vous, Sébastien, vous êtes sur une offre basée sur la conversion des véhicules essence à l'éthanol, de la même manière que le groupe Borel l'effectue, c'est bien ça, hein ?
Exactement, avec le groupe Borel, donc le groupe Borel parlera beaucoup mieux de lui que moi, mais effectivement, comme Borel, on installe et on monte des boîtiers éthanol pour les clients et les automobilistes.
Ça veut dire que dans Ça roule ce matin, avec le groupe Borel et avec Sébastien Le Polès de chez Flexfuel, on va donner l'occasion à nos amis qui nous écoutent d'avoir une voiture qui va beaucoup, 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 beaucoup moins coûter en termes d'ingrédients, mais de carburant.
Ouais, c'est un peu ça.
C'est quoi votre offre Flex 3, M. Borel ?
Alors, c'est complètement différent de ce que peut proposer Flexfuel, puisque nous sommes spécialisés dans la transformation et l'équipement de véhicules pour fonctionner au gaz et accessoirement à l'éthanol. Donc, un véhicule Flex 3, c'est une voiture qui peut alternativement fonctionner soit à l'essence, soit à l'éthanol, soit au GTL ou au gaz naturel, en fonction de la disponibilité des tarifs en station.
Alors, on entend de plus en plus parler hein, quand même d'éthanol, surtout depuis que Ford a poussé la Ford Kuga, notamment avec une petite personnalité, un type pas très costaud d'ailleurs, Teddy Riner pour information.
Oh, un petit 2m10, 140 kilos.
Oui, et puis il y a des chemises qui sautent avec les boutons.
J'ai le même problème, sauf que moi c'est un peu plus bas.
Oh non, Sébastien, au niveau
du ventre. Je parlais du ventre.
Oui, c'est pour ça qu'on est bidonné, parce que vous êtes bidonnant. Voilà, ok, c'est parti.
Donc on voit bien, monsieur Borel, que là, l'éthanol a le vent en poupe. Est-ce que vous le ressentez dans les installations? Parce que ça fait relativement peu de temps que vous avez un boîtier homologué sur ce secteur. Vous étiez plus basé, si ma mémoire est bonne, sur le GPL à la base. Hein.
Oui, alors nous, la proposition en éthanol, il s'agit d'un kit et non d'un boîtier, c'est-à-dire que c'est un kit qui comprend un analyseur d'alcool avec un calculateur éthanol. Et c'est complètement transparent par rapport à l'électronique de la voiture. L'électronique de la voiture n'intervient absolument pas et on a véritablement des voitures qui sont flex, quoi, hein, et peuvent fonctionner avec différentes quantités d'alcool dans le réservoir.
Mais comment ça se passe? Parce que j'achète la voiture directement chez vous ou je viens avec ma voiture neuve classique, moteur thermique classique et vous faites les changements?
Non, en fait, ce que je propose, ce sont des véhicules neufs équipés, homologués.
D'accord, donc on va directement chez vous. Faut compter quoi en termes de budget différent par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché?
Écoutez, on a toute une, sur notre site là, toute une liste de véhicules que l'on propose déjà transformés, soit en Flex 2, soit en Flex 3. Et ça va de la Sandero jusqu'au 3008, en passant par le Duster, etc.
Bon, bah en tout cas, une offre qui va permettre à ceux qui nous écoutent peut-être et qui sont intéressés, hein, qui entendent parler un petit peu d'éthanol, de gaz, d'aller regarder ce que vous proposez sur votre site internet. Merci d'avoir été avec nous dans Ça Roule. On va partir au standard parce que ça appelle déjà au 0826-300-300.
Oui, effectivement, on a Pierre qui est avec nous de Toulouse. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Comment ça va?
Je trouve que vous avez un très joli prénom.
Ouais. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est toi qui t'appelles comment? Pierre Ego, non? C'est ça?
Non, Pierre.
Ouais. Pierre, pardon, de Toulouse, votre réaction par rapport au sujet. Est-ce que vous seriez prêt à avoir une voiture qui a une motorisation totalement différente et qui vous permettrait de faire beaucoup, beaucoup d'économies, comme vient d'en parler M. Borel ou M. Sébastien Lepaulès?
Ben écoutez, moi j'ai déjà des véhicules qui consomment peu, sachant que j'ai un diesel bien sûr que j'utilise au quotidien, mais bien sûr d'un point de vue impact carbone c'est pas extraordinaire, mais après à côté de ça j'ai aussi un véhicule électrique qui me permet de faire des petits trajets. Je crois que pour moi l'électrique est l'avenir. Hein. Bon, quant au changement de l'éthanol, moi je suis pour aussi, mais l'inconvénient c'est que on ne connaît pas si un jour cette législation va évoluer. Et d'après moi, elle va évoluer à tort, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter les taxes tôt ou tard pour permettre, pour que l'État puisse récupérer des sommes d'argent. Sachant que pour moi, l'inconvénient de l'électrique pour l'État, c'est qu'elle ne va plus pouvoir percevoir des taxes.
Alors mon Pierrot, je vais vous dire franchement ce que j'en pense.
Ouais.
Là où vous avez raison, c'est qu'à mon avis, s'il y a moins de gens qui ont un diesel et moins de gens qui ont une essence, au bout d'un moment, s'il y a plus de gens qui ont de l'éthanol, tôt ou tard, Sébastien Lepaulès, plutôt tard d'ailleurs, mais on va avoir une légère réaugmentation de la taxe si tout le monde basculait sur l'éthanol, c'est une évidence. Mais on en est loin quand même.
Alors on en est très très loin, puisque déjà pour les deux prochaines années, on est sur une fixation au niveau de la loi de finances. Alors elle est quand même révisée tous les ans, la loi de finances. Mais bon, on est sur une fixation de la taxe qui est identique à cette année, donc il n'y a pas d'augmentation de prévu. Et je vous rappelle que la taxe carbone a été bloquée par le président jusqu'en 2022. Donc à partir
de
là,
il a compris là, je crois. Ouais,
là, je pense qu'au niveau de, la contestation, on est au maximum. Donc du coup, il a compris.
Il a bien compris.
Et ce qui est assez étonnant dans le discours de Pierre, qui est en ligne actuellement, c'est que j'ai lu encore avant-hier qu'il maintenant ça coûte plus cher de faire un plein à l'électrique que de faire un plein à l'essence.
Oui,
c'est assez incroyable.
Ouais, exactement. Ça a augmenté là.
Attention, Pierre, écoutez bien ça. N'oubliez pas, si tout le monde bascule sur l'électrique, qu'est-ce qui va se passer sur les kilowattheures, à votre avis? Vous croyez qu'on va vous les offrir? Vous savez combien c'est l'argent de la taxe concernant les carburants pour l'État? C'est 30 milliards d'euros par an. Donc si tout le monde bascule sur l'électrique, il va manquer 30 milliards dans les caisses. Hein.
Et alors, oui. On en parlera, on en a parlé avec notre ami Fabrice Godefroy, hein, dans l'émission de l'électrique. D'ailleurs, Fabrice est resté avec nous pour rester jusqu'au bout du chemin.
Il est toujours là, Fabrice.
On adore. et c'est vrai qu'en plus, les constructeurs, là, il va y avoir une poussée, on l'a dit déjà, entre 11h et 11h30.
Non, ce que j'aurais pu rajouter, c'est que ça a été chiffré.
Ouais, en plus.
Il y a eu un rapport parlementaire qui nous expliquait que de passer du moteur thermique au véhicule électrique à 100%, ça coûterait 500 milliards d'euros à l'État. Ça a été chiffré par un rapport parlementaire.
À l'État, à nous, vous voulez dire, hein, parce que ça va nous retomber
dessus.
Hein.
Voilà, effectivement, vous avez complètement raison, Pierre, et ça va coûter très très cher.
Je mets ma contribution avant de partir, je laisse 10 euros.
Hein. Ouais, c'est sympa. Bon, Pierre...
Je voulais rajouter quelque chose.
Allez-y.
Lorsque vous expliquez que l'électricité, bien sûr, va augmenter, vous avez quand même de plus en plus de gens qui ont des panneaux photovoltaïques et qui sont en totale autonomie. Et ces panneaux photovoltaïques vous permettent donc de recharger votre batterie de voiture sans que cela coûte un centime au contribuable, enfin, à
Pierre,
la personne qui recharge.
Je vois que vous aimez bien la motorisation électrique, il n'y a pas de problème, elle ne me déplaît pas. Hein. Mais il va falloir des panneaux photovoltaïques si vous voulez recharger votre voiture avec 450 km d'autonomie. Cependant,
ça peut être
pourquoi pas ? Ça peut être une idée.
Ça serait idéal.
Vous pouvez aussi planter une éolienne dans votre jardin si vous en avez envie. On peut tout faire. Pourquoi pas ? Sauf qu'au bout d'un moment, l'électrique, c'est quoi ? C'est un problème de recharge, c'est un problème d'autonomie. Ça correspond à votre utilisation du véhicule, en tout cas à un des deux, puisque c'est pas votre premier véhicule. Vous avez un petit diesel derrière qui tourne et qui vous rend des fiers services. Mais l'électrique, c'est une des solutions, comme rappelle souvent Fabrice Godefroy. Mais c'est pas la solution. C'est une multitude de solutions, dont notamment celle qui vous fait gagner de l'argent, et celle-là, elle est claire, c'est l'éthanol.
Eh bien, merci beaucoup Pierre d'être intervenu de Toulouse. On revient évidemment sur notre sujet qui nous intéresse également avant midi et demi, puisque vous le savez, eh bien, on a la possibilité maintenant de rouler moins cher avec des alternatives au carburant.
Tiens, on va parler du prix et de l'économie réalisée après.
Avec notre ami Sébastien Lepalès, bien sûr, et les fameux boîtiers.
Les petits boîtiers qui sont maintenant homologués. J'insiste, homologués. Restez bien avec nous. On vous donne toutes les clés pour ne pas vous faire arnaquer et gagner vraiment de l'argent.
Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et après avoir parlé, vous le savez, hein, si vous étiez avec nous à partir de 11h de l'année, qui sera peut-être l'année de la vérité pour les moteurs électriques, et quid des moteurs diesel avec notre ami qui est resté avec nous, Fabrice Godefroy. Nous revenons sur cette autre possibilité, Pierre, d'avoir des moteurs un peu différents et qui coûtent beaucoup moins cher en termes de consommation,
ouais,
entre autres avec Sébastien Lepalès.
L'éthanol, on va vous donner les prix moyens de ce carburant. On est à 68 centimes le litre en moyenne sur la France, donc forcément, vous avez bien compris, dans certaines zones, on peut même l'avoir à aux alentours des 45-50 centimes. Hein.
Ah bah, j'ai fait un plein la semaine dernière à 52 centimes le litre.
Ah bah là, faut en importer.
Ça s'appelle de l'insolence.
Même plus de questions à se poser. On ramène les jerrycans et c'est parti. Quoique non, c'est pas légal. On n'a pas le droit de le faire.
Non,
pour des raisons de sécurité, le côté inflammable
du
carburant. Et puis, j'ai vu une bonne nouvelle, Sébastien. Alors du coup, comme ça, vous vous mettez à parler un petit peu à l'anglaise, à la britannique, à l'américaine. Vous êtes a French Tech.
C'est quoi ça?
Les French Tech, en fait, c'est un concours qu'a lancé le gouvernement il y a quelques années qui met en avant les startups les plus prometteuses. Donc celles qui ont un produit qui est prometteur ou qui ont une progression de chiffre d'affaires qui est différente des autres sociétés. Et donc cette année, on a été lauréat. Et donc parmi les 120 startups qui ont été sélectionnées, donc Flexfuel a reçu également la sélection des startups French Tech.
Vous existez depuis combien de temps maintenant et quelle est votre progression pour parler un peu commerce et après on viendra sur notre motorisation et les boîtiers.
Alors on existe depuis 2009, donc ça fait quand même une dizaine d'années.
Hein, bravo,
ça fait,
bon anniversaire.
Ouais, merci beaucoup. Depuis en mars.
Ouais,
ça presque, fait même presque 11 ans.
Presque 11 ans même.
Effectivement. Donc mais avec un vrai engouement au niveau du public et des clients depuis 2014. Donc c'est là où il y a une vraie progression.
2009, parce que j'aime bien les idées, j'aime bien les histoires comme ça.
2009.
Sébastien, tu es là, assis dans ton canapé, tu te dis tiens, il y a un truc dont personne ne parle en France, c'est l'éthanol. Et si j'en faisais, parce que j'ai envie de monter une boîte, peut-être qu'elle marchera un jour, mais peut-être que je vais me planter.
J'ai même fait mieux que ça. J'avais déjà une boîte que j'ai arrêtée avec une trentaine de personnes et j'ai dit ça fait partie des carburants de demain. Faut que je me lance. Alors de 2009 à 2014, ça a été compliqué. Hein, je vais pas vous raconter autre chose, mais à partir de 2014, ça a vraiment progressé.
C'est marrant, c'est le Sud Radio arrive et ça roule arrive voilà. En 2014.
Non, mais c'est marrant parce que en fait, Sébastien, c'était un gars qui se disait tiens, j'aurais bien fait des pâtes au beurre j'avais du beurre.
Alors,
le problème, c'est que j'ai pas de pâtes.
Concrètement, parce qu'il y a beaucoup, on entend de plus en plus parler grâce à vous. Vous êtes le seul actuellement sur le marché avec Flexfuel ou pas?
Alors, comme on a pu l'attendre tout à l'heure, il y a Borel qui fait également une proposition de GPL et de Kit 85. il y a également la société Bio Motors qui voilà. a un confrère qui fait également des boîtiers avec des boîtiers homologués comme nous, et un troisième qui s'appelle ARM Engineering, un quatrième ARM Engineering qui a également des boîtiers homologués. Donc on est quatre en France à proposer aujourd'hui des boîtiers homologués, ce qui permet d'avoir une offre.
On a combien
pour tout
de
monde.
Voitures à peu près, on sait aujourd'hui sur le marché en gros. Sur le marché, en fait combien à l'année,
alors,
par exemple,
nous on en fait environ 1200 par mois. Avec d'accord. une progression intéressante.
Par mois, par mois. C'est pas mal.
Ouais, ouais, c'est propre. Ouais.
On aurait aimé. Bon,
enfin, sur tous les départements
français.
Hein.
Oui, mais c'est quand même pas mal.
Voilà, donc si on fait pareil pour nos confrères, on peut estimer à 200, 250 000 véhicules convertis.
Je vous rappelle que Maserati vend 500 grosses bagnoles par an en France. Là, 1200 par mois pour. Ok, la comparaison est peut-être un peu.
Le boîtier Flexfuel coûte quand même beaucoup moins cher qu'une Maserati, du coup, et permet de faire des économies.
Ah, c'est chouette, hein.
Alors, en gros, l'économie que vous allez réaliser, on l'avait calculée à 40 millions d'automobilistes pour. Alors, il n'y a pas de Français moyen qui fait un trajet moyen dans une région moyenne. Ce Français moyen, je ne le connais pas. Mais en tout cas, si on le ramène à une moyenne de la France, eh bien, on peut estimer qu'on va économiser 500 euros par véhicule. Voilà. Sur le budget carburant. Ce qui est quand même.
Par mois, par an?
Par an. Ah oui, bah par mois, on met pas 500 euros de carburant, sinon là.
Si les entreprises, je pense à elles.
Enfin, si on avait écouté Édouard Philippe à l'époque, peut-être.
Hein. Mais je pense aux entreprises, tu sais, qui ont des flottes oui, et qui vrai. Ont.
Ne serait-ce que nous, chez Flexfuel, on a converti toute notre flotte depuis l'homologation à l'éthanol, ce qui permet de faire de grosses économies. Parce que quand on fait un plein à 30, oui, les utilitaires, tous les véhicules à l'éthanol.
Sébastien m'expliquait que c'était extrêmement compliqué, parce que, évidemment, il fait du Flexfuel, il convertit des motorisations essence à l'éthanol. Oui. Il n'allait pas acheter un utilitaire diesel. C'était difficile pour lui de trouver un utilitaire essence sur le marché qui puisse convertir à l'éthanol.
Effectivement, il n'y a pas une très grosse offre aujourd'hui sur les utilitaires, notamment à l'essence, mais il y a, je pense, un marché de demain, notamment pour nous qui faisons des petits parcours, hein, parce que le diesel a toute sa place sur les autoroutes, mais nous, on fait beaucoup de villes et des petits secteurs, donc l'éthanol est très rentable pour nous. Il faudrait effectivement une offre un peu plus grande.
Alors, il y a une autre solution, hein, Fabrice, hein, Fabrice Godefroy, qui reste assis, planté. De toute façon, il est toujours là.
Non, mais c'est qu'il est passionné, c'est un expert, donc passionnant. On aime bien le garder. Et passionnant.
Fabrice.
Il va poser une colle dans 5 minutes. Donc
non, mais il n'y a pas de colle. Il n'y a que des tubes pour Fabrice. Quand on parle biocarburant, on a un mot qui nous vient à l'esprit, c'est le biodiesel. On en est où sur les biodiesels? Parce que là, Sébastien Le Pollès, lui, il aimerait bien pouvoir convertir des véhicules au biodiesel. Il en rêve.
Alors, le biodiesel, il y a effectivement un constructeur et des équipementiers qui travaillent dessus. Ils sont pour l'instant sur du 33% biodiesel, notamment Bosch, par exemple, je peux le citer, parce qu'ils l'ont officiellement annoncé il y a quelques semaines. Ouais. Et je sais que Bosch travaille aussi sur du biodiesel, mais 100%.
Est-ce que ça permettrait de réduire aussi les coûts en termes de taxes?
Ça va permettre, ce qu'ils annoncent, c'est une diminution de taux de pollution et de CO2 de 66%.
C'est quoi le biodiesel, messieurs là,
Le biodiesel, de synthèse. Alors la différence, je pense que tu vas l'expliquer, le bioéthanol, d'où ça vient. Le biodiesel, c'est différent. Alors, il y a deux technologies. Il y a une première technologie, c'est de récupération. Et ça, c'est hyper intéressant, puisque ça fait partie de l'économie circulaire. C'est de récupérer le CO2, de le mélanger avec de l'hydrogène, et ça devient du biodiesel. Ça, c'est une chose. Et après, il y a du biodiesel sur de la récupération des déchets, notamment du plastique. Donc, il y a plein de projets extrêmement intéressants là-dessus.
Sauf qu'au final, si ça fait une conversion de voiture, vous surveillez ça, Sébastien Le Pollès, de très près, tout ce qui est biodiesel aussi?
Nous, on a des produits pour tous les clients, donc que ce soit diesel ou essence, quoi qu'il se passe, on a quelque chose qui permet effectivement de proposer quelque chose aux clients. Et donc, quoi qu'il en soit, qu'il soit diesel ou essence, pour le diesel, vous le savez, on en a déjà discuté ici sur Sud Radio, on a le décalaminage qui permet de maintenir les moteurs propres et faire des économies de carburant. Mmh. Et pour les clients qui ont des essences, on a le bioéthanol dont on parle actuellement.
Alors c'est vrai qu'on en parle souvent sur Sud Radio depuis qu'on existe en fait, depuis 2014-2015, ça roule sur Sud Radio, on en parle de votre boîtier concrètement parce qu'il y a toujours des nouveaux auditeurs qui arrivent et on les remercie de la confiance qu'ils nous accordent. Quel type de voiture peut être éligible à recevoir le boîtier?
Alors aujourd'hui, l'homologation est très claire.
Et combien ça me coûte?
Alors,
celle qui tombe pas en panne, Laurence.
combien ça gagne? Combien on gagne?
Alors,
on peut installer tous les véhicules de 2000 à aujourd'hui, en fait. L'homologation sert de 2000 à aujourd'hui, les Euro 3 à Euro 6. Et on peut installer les véhicules jusqu'à 14 chevaux fiscaux. C'est ce qui est lié dans l'arrêté. À partir de là, combien ça coûte? À partir de 700 euros TTC posé, matériel posé, réglage.
Combien de temps d'immobilisation de ma voiture?
Faut compter une journée. Vous déposez le véhicule le matin, vous le récupérez le soir et vous allez faire un plein deux fois moins cher.
D'accord. Vous êtes équipementier également, Fabrice Godefroy. Vous êtes aussi expert mobilité auprès de 40 millions d'automobilistes. Vous travaillez aussi auprès du CNPA.
Vous vivez partout.
les équipementiers, vous vous intéressez de plus en plus à ce boîtier. Est-ce que vous, les garages commencent à vous en demander? Comment ça se passe? Parce
alors,
que c'est en train de...
Alors nous, on est clients effectivement chez toi et on fait du montage de ces boîtiers et on le fait effectivement. Alors on a même fait des stages pour les professionnels et notamment les garagistes et les gens sur ce genre de pratique. Donc effectivement, on le fait.
Il faut que ce soit très bien fait. Hein.
Voilà. Il faut que techniquement, voilà, ce soit vraiment un spécialiste qui soit référencé, qui le fasse.
Je préfère le dire
parce que techniquement, on va peut-être pas rentrer trop dans la technique, mais il faut véritablement faire des démarches quand même avant de mettre ce boîtier éthanol. Notamment, il y a, si tu veux certainement mieux l'expliquer, mais il y a tout un système de vidange qu'il faut vraiment appliquer par rapport à ça, une fois que tu l'as fait, parce qu'il y a quand même quelques résidus éventuels qu'il peut y avoir dans le carburant. Donc, il faut véritablement que ça soit monté par un technicien,
voilà,
et un professionnel.
Agrégé,
il faut pas que ça soit fait à côté de la plaque.
À partir du moment où vous installez un boîtier, il faut que le véhicule soit propre et en bon état.
Mais il faut le faire par des garages que vous agrégez vous, en fait. Que voilà,
tout à fait.
Voilà,
le boîtier est homologué, mais l'installateur est habilité. Donc il a un numéro d'habilitation qui est reconnu auprès du gouvernement.
C'est ça qui est important.
Et à partir de là, avec
en fait, pour schématiser pour tous ceux qui nous écoutent...
Non mais on parle vrai sur ce radio, c'est pour ça.
L'éthanol a un pouvoir un peu détergent, on va dire. C'est-à-dire qu'il va venir presque nettoyer un petit peu le réservoir de carburant de votre moteur. Le sans-plomb, lui, il a beaucoup d'impuretés. Donc si vous ne vidangez pas, si vous nettoyez pas correctement votre réservoir à carburant, eh bien vous pouvez avoir une petite panne du genre...
La base... C'est pour ça que vous proposez un décalminage notamment avant.
Exactement. Et la base, de toute façon, c'est vidange, changement des filtres, et ensuite on passe
et après,
à l'éthanol.
Roule.
Et après ça roule. Et pour conclure, c'est là où je voulais vous emmener, c'est pas pour faire de la pub à outrance, mais c'est juste pour pas avoir de mauvaises surprises. Allons avec vous directement sur le site Fiexfool, voyons qui sont les garages agréés pour faire ce genre de choses, comme ça on n'aura aucun problème, ce sera bien fait. Merci beaucoup.
Merci à vous. À très bientôt.
Sébastien Le Pollès et Fabrice, bon week-end aussi. Hein.
Comme d'habitude.
Bon week-end, mon grand.
Non, mais pour le coup, Laurence, c'est quand même le moment de faire des économies.
Mais on est d'accord.
C'est du gagner d'avance. On en parle parce que c'est le moyen de vous faire économiser de l'argent si vous m'écoutez.
Mais c'est pas ça.
N'hésitez pas.
C'est comme là, on va en parler tout de suite, c'est le coût du carburant et c'est avec Gaspard.
Sud Radio.
Ça roule.
La minute qui carbure.
Après une baisse la semaine dernière, les tarifs repartent à la hausse. Le sans-plomb 98 prend plus 0,2 centimes par litre, 1,61 € en moyenne. Le sans-plomb 95 plus 0,4 centimes par litre, 1,55 € en moyenne. Et le diesel, par contre, baisse 0,6 centimes de moins par litre, 1,48 € le litre en moyenne.
Et ça te gêne pas tous les samedis d'annoncer des mauvaises nouvelles comme ça?
Pour le diesel, c'est plutôt pas mal.
Maintenant,
Gaspard, une sur trois.
À partir de samedi prochain, je veux aussi le prix de l'électricité à la pompe, parce que ça augmente en ce moment, ça bouge.
On en a parlé le week-end dernier,
exactement. Allez, passez un bon week-end tout de suite, c'est Invino Alain Marty avec modération, soyez prudents, bon week-end, salut.